Alors, j'ai souvent choisi des photos pour illustrer mon propos, parce que j'aime beaucoup les photos, les images, tout ce qu'elles peuvent évoquer. Alors, pour pas changer ces bonnes traditions, j'en ai choisi une pour ce matin. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce tableau de Claude Monet, Le Déjeuner. Je vais juste vous poser la question, qu'est-ce que ce tableau évoque pour vous quand vous le regardez, enfin, pour ceux qui aiment la peinture en tout cas. Ça évoque l'été, hein. Ça évoque certainement la tranquillité, un endroit agréable, une bonne odeur de fleurs peut-être, vu qu'il y en a partout sur l'image. Peut-être une maison de riche, parce que j'ai pas une maison comme celle-ci, moi. En tout cas, dans une image, on peut transmettre beaucoup de sensations différentes, d'émotions. On peut parfois aussi communiquer des idées ou un message plus précis à travers des images. Alors, je vous ai choisi d'autres images. Alors, j'ai pris une photo de billets de Monet M-O-N-A-I-E, ce coup-ci, du Vietnam. Et donc, comme dans tous les pays, hein, on choisit sur les billets de banque des dessins pour communiquer un certain message. Alors ici, on voit des ouvriers, enfin presque exclusivement des ouvrières. Hein, si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'un d'ouvrier, autrement il doit y avoir 8 ou 9 ouvrières qui travaillent dans des usines de production manufacturière. Au recto de tous les billets, on voit le visage de... le visage bienveillant de Ho Chi Minh qui veille sur la nation. Alors, toutes ces images, on les a vues dans nos livres d'école, hein, quand on a étudié l'URSS, ça ressemblait pas mal. Elles communiquent toute une idée de prospérité, d'équité, de valeur du travail, globalement des bienfaits du communisme et de la révolution de Ho Chi Minh. Alors, sans me positionner là-dessus, je voulais juste... évoquer le fait que beaucoup de choses sont parfois mieux communiquées par des images que par des explications. Et dans l'histoire et dans la Bible, Dieu a très souvent utilisé des images ou des illustrations pour nous communiquer des choses et pour communiquer avec les hommes. Alors ces images n'étaient pas forcément des gravures, des peintures, des photos. Les images ou les illustrations peuvent être de beaucoup de types différents. Dieu a utilisé parfois des histoires ou des paraboles, des visions. Dieu a utilisé des objets pour communiquer des choses, comme les objets du tabernacle. Dieu a utilisé des fêtes qui ont beaucoup de symbolisme pour transmettre un message, des rituels, comme ceux des sacrifices. Et Dieu se sert de ces images pour communiquer beaucoup de types de messages différents. Parfois, c'est pour délivrer un message de circonstance, comme les songes que Dieu a donné à Joseph ou au Pharaon et que Joseph a expliqué. Donc, un message de circonstance sur ce qui allait se passer à ce moment-là. Parfois, on a des images pour mieux comprendre qui Dieu est. Alors, on peut prendre comme exemple les objets du tabernacle ou par exemple une image que Dieu a donnée à Élie quand Élie s'est retiré à l'écart et Dieu voulait lui montrer qui il est et comment il est. Et après une tempête, après un tremblement de terre et un feu dans lesquels Dieu n'était pas, Élie a rencontré Dieu dans un murmure doux et léger. Alors bien sûr, c'est pas une image qu'on voit, mais c'est une image qu'il a entendue, qu'il a vécue, qui lui a permis de mieux comprendre qui Dieu est et qui Dieu n'est pas. Parfois, on a des images pour se souvenir de ce que Dieu a fait par le passé, comme c'est le cas de beaucoup de fêtes juives que Dieu a instaurées comme des événements répétitifs pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu a aussi utilisé souvent des images pour mieux comprendre le salut qu'il nous offre, comme par exemple l'institution des sacrifices, comme par exemple beaucoup de paraboles, comme la parabole du semeur par exemple, qui sont des images dans lesquelles on peut puiser beaucoup d'éléments de compréhension qui nous permettent de mieux saisir ce message que Dieu a à nous dire. Et puis on a aussi certaines images qui servent à nous encourager, à nous annoncer ce qui arrivera, comme par exemple les visions de Jean dans l'Apocalypse. Et très souvent, ces images ont plusieurs buts et poursuivent plusieurs de ces buts à la fois. Alors certaines de ces images sont utilisées par Dieu, sont explicites pour tout un chacun, mais souvent elles nécessitent un éclairage spécial de la part de Dieu pour pouvoir les comprendre. Par exemple, le pharaon qui a reçu deux visions de la part de Dieu concernant les années d'abondance et les années de famine qui arriveraient par la suite, avait besoin des explications de Joseph pour comprendre les songes qu'il avait reçus de Dieu. Je vais vous donner un autre exemple, dans Matthieu 13, donc juste après la parabole du semeur et des terrains, les versets 14 à 18. Pour eux, donc c'est de la bouche de Jésus, hein. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Et Jésus expliquera à ses disciples plus d'explications pour comprendre cette parabole. De cette manière, à travers des images, parfois on comprend bien le message, parfois on peut comprendre quelque chose complètement à côté, voire même le contraire du message qui aurait pu être transmis. C'est une affiche publicitaire il y a quelques années de la banque anglo-saxonne HSBC qui jouait un petit peu sur le fait que avec des images en fonction du point de vue duquel on se place, une même image peut avoir des significations tout à fait opposées. Parfois, on comprend rien du tout. Peut-être certains d'entre vous comprennent. En tout cas, sans explication de cet artiste français, hein, Franck Gervaise, je comprendrai jamais son tableau monochrome ici. Et on a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour bien comprendre ce que Dieu veut nous communiquer à travers ces images. Et souvent, la Bible nous donnera beaucoup d'explications concernant les différentes images. Alors, ce matin, je vous propose de vous arrêter sur une image que Dieu nous a laissée à chacun d'entre nous. Une image, un rituel qu'on reproduit régulièrement, même tous les dimanches. Il s'agit de la scène. Dans la scène, il y a beaucoup de sens. Et je voudrais juste m'arrêter sur certains d'entre eux ce matin. Alors ça a été parfaitement introduit par Yves. Nous partageons ce pain et ce vin pour nous commémorer la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Et c'est le message principal de ce repas qu'est la scène. Yves nous a aussi parlé tout à l'heure de l'action qu'a eu Jésus de rompre le pain, ses valeurs de partage, le fait que Jésus est la tête et le chef, et que nous sommes en communion tous au même niveau lorsque nous partageons ce repas ensemble. Et donc je voudrais m'arrêter sur quelques images qui sont contenues dans ce repas qui est la Sainte Cène, que nous puissions avoir une vision encore plus élargie de ce que nous fêtons chaque dimanche lorsque nous partageons ce repas. Je vous propose de lire l'institution de la scène dans l'évangile de Matthieu. Alors on la retrouve dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc. Donc je vous propose de lire dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 17, et on pourra lire jusqu'au verset 30. Hein. Matthieu 26, des versets 17 à 30. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je ne m'arrêterai pas sur tout. Hein. J'ai choisi quelques petits points que je voudrais mettre en valeur ou souligner. La première chose, c'est que le repas du Seigneur, cette première scène, a lieu pendant la Pâque. Donc c'est peut-être même le repas pascal. Il y a peut-être certains débats concernant le fait que ce soit ce repas ou un repas de la semaine de Pâques. Mais en tout cas, c'est un repas qui au départ commémore la Pâque et donc la sortie d'Égypte du peuple qui a été délivré des mains du Pharaon par Dieu. Et donc ce repas est cette fête qui a été instituée par Dieu. Je vous propose de lire l'institution de la Pâque dans Exode, au chapitre 12, les versets 11 à 14, juste quelques versets. Je lirai d'abord le verset 3, puis les versets 11 à 14. Donc de la part de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. C'est juste avant la dixième plaie et la sortie d'Égypte. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un petit peu plus loin, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Alors quand on partage le repas du Seigneur, comme Jésus, on partage aussi en quelque sorte cette Pâque. Et on se remémore encore bien avant le dernier repas de Jésus, cette sortie d'Égypte et ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que signifie cette Pâque pour nous aujourd'hui? Certainement plusieurs choses. La Pâque, c'est d'abord le rappel de la toute-puissance de Dieu. La Pâque, c'est le moment où Dieu va prouver son autorité sur toute chose en libérant Israël des mains du Pharaon. Le Pharaon qui avait soumis Israël en esclavage et refusé de les laisser partir. Dieu, après une série de signes miraculeux avec les plaies en Égypte, montre avec puissance qu'il règne sur tout et qu'il fait plier le Pharaon avec cette 10e plaie pour délivrer son peuple. Et notre Dieu, qui ne change pas, est aujourd'hui ce Dieu tout-puissant qui règne sur le monde et sur l'univers. Et si on rappelle une chose, d'abord, avec la Pâque, c'est que notre Dieu est tout-puissant et au-dessus de toute chose. La deuxième chose qu'on rappelle, c'est la signification de la Pâque. La première Pâque, où le sang d'un agneau sans défaut, il nous est dit dans ce texte, permet la miséricorde de Dieu. C'est déjà une image, c'est une préfiguration du sacrifice que fera Jésus, une prophétie. On peut même dire que c'est une promesse de ce que Jésus accomplira plus tard à la croix. Jésus nous dit que son sang est versé pour le pardon de nos péchés, pour que nous ne subissions pas le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. Et quand on rappelle cette image de la Pâque qui a été instituée des siècles et qui s'est transmise pendant des siècles avant son accomplissement, on rappelle aussi la fidélité de notre Dieu. La fidélité de notre Dieu qui ne change pas et qui a accompli ce qu'il annonce bien à l'avance. Le deuxième point que je voulais souligner dans le repas de la scène qu'on partage ensemble, c'est que la scène, c'est un repas, ou c'est plutôt une partie d'un repas, en fait, c'était partagé pendant un repas. Et c'est pas pour rien que c'était pendant un repas. Là, au verset 20, on trouve: le soir venu, il se mit à table avec les 12, et pendant qu'ils mangeaient, il dit, et puis il parle avec eux au cours de ce repas. Alors, je pense que nous, Français qui aimons manger, discuter à table, se lever à 16h le dimanche après, se lever de table à 16h le dimanche après-midi après un bon repas. Avec notre culture, ça nous permet de comprendre certains éléments de ce symbole de partager un repas ensemble. Et dans cette culture, ça va même encore dans la culture des Juifs, ça va même encore plus loin avec ce partage d'un même plat, où tout le monde trempait ses aliments dedans, ce partage du pain, où le même pain est partagé, distribué entre tous, c'est pas chacun qui a son petit pain, et de la même manière pour la coupe. Et on a, comme l'avait dit Yves, toute cette notion de la communion, de quelque chose qu'on partage et qu'on a en commun en mangeant un repas ensemble. Alors, on mange pas avec n'importe qui, et c'est autour d'une table qu'on apprend à se connaître, qu'on partage des choses, qu'on construit des amitiés. Et le fait que Jésus a choisi d'instituer ce symbole au cours d'un repas nous montre l'intimité de Jésus avec ses disciples, de Jésus avec nous, et de nous, entre nous, lorsque nous partageons le dimanche ce pain et ce vin. Quand on partage ce pain et ce vin ensemble, quand on partage cette scène, on montre que Dieu nous a réunis ensemble et que nous formons aujourd'hui un même corps qui est l'Église. Le point suivant sur lequel je voulais m'arrêter, c'est pourquoi Jésus a choisi du pain pour symboliser son corps. Alors là, il y a beaucoup de choses. Effectivement, le pain a été Jésus a choisi le pain et l'a rompu, tout comme son corps a dû être brisé. Il a dû mourir sur la croix pour pour pouvoir porter nos péchés. Mais le pain, c'est un symbole encore bien plus ancien. Et Jésus parlait déjà de lui-même comme étant le pain de vie plusieurs années plus tôt dans son ministère. Et je vous propose de lire quelques versets à ce sujet dans l'évangile de Jean. Chapitre 6, les versets 31 à 40. Donc les pharisiens interrogent Jésus et leur dit et lui disent « Nos anciens ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur répond « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Donc ça, c'est juste un extrait de ce passage où Jésus se présente comme le pain de vie. Un parallèle avec la manne que Dieu a envoyée comme nourriture dans le désert pour le peuple d'Israël après cette sortie d'Égypte pendant leur errance de 40 ans dans le désert. Et Jésus nous parle ici du seul moyen d'avoir la vie éternelle en croyant en lui. Et de la même manière que le pain qui représente la nourriture pour nous, nous est indispensable pour vivre, de la même manière que la manne était indispensable pour le peuple d'Israël pour pouvoir se nourrir dans le désert, nous avons besoin de Jésus pour pouvoir connaître Dieu. De la même manière que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de connaître Dieu. Et Jésus est le pain parfait qui peut rassasier notre faim de connaître Dieu. Par son intermédiaire, nous pouvons connaître Dieu et recevoir la vie éternelle. Lorsque nous partageons ce pain ensemble, nous nous rappelons que Jésus est le pain et que nous sommes entièrement dépendants pour notre vie de Jésus et de ce pain de vie. Et que lui seul peut nous combler et nous faire connaître le Père. Le point suivant dont je voulais vous parler, c'est juste s'arrêter une minute sur cette nouvelle alliance que nous avons à travers le sang de Jésus et que nous symbolisons par ce vin que nous partageons ensemble. Matthieu 26, les versets 27 et 28. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors une alliance, qu'est-ce que ça veut dire encore pour nous une alliance aujourd'hui? À part les alliances militaires, on parle d'alliance, moi ça me rappelle ce que j'ai autour du doigt. Hein. Le mot « alliance », qui me rappelle ce jour autour du doigt. Un jour, j'ai choisi Pops pour être mon épouse. J'ai prêté solennellement serment devant l'adjoint au maire de Villeurbanne. J'ai scellé une alliance avec elle. Et quand je me suis engagé avec elle, comme l'indique le Code civil, article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, etc. Et ce, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ça, c'est l'alliance du mariage, hein, qui est une bonne illustration, même si ça n'arrive qu'à la cheville, en fait, de l'alliance que nous pouvons avoir avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est un petit peu la même idée. Par le pardon que Jésus nous apporte, maintenant nous pouvons retrouver cette communion avec Dieu. On peut être du côté de Dieu contre le mal. Et on peut avoir Dieu à nos côtés. Quand on fait alliance, c'est qu'on est ensuite du même côté, ensemble. Et ce, non pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce que la vie éternelle nous unisse. Et c'est là aussi que cette alliance est bien plus grande. Alors au lieu de le rappeler avec une bague, on le fait en le partageant le vin ensemble, tous les dimanches. Mais quand on partage ce vin, remémorons-nous que c'est une alliance avec Dieu qu'on commémore. Et enfin, on ne peut pas finir sans ça quand même. Ce repas qu'on partage ensemble n'est qu'une préfiguration, tout comme la Pâque n'était qu'une préfiguration. C'est une préfiguration d'un repas qu'on mangera une fois tous ensemble. Donc nous ensemble, réunis physiquement avec Jésus, avec Dieu le Père, avec les croyants qui sont morts aujourd'hui, ou ceux qui ne sont pas encore nés peut-être. Matthieu 26, le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors tout comme pour l'institution de la Pâque à la sortie d'Égypte, nous avons une promesse des choses à venir dans ce repas que nous partageons. C'est qu'un jour, nous le partagerons ensemble au ciel avec Jésus, avec Dieu le Père et avec tous les autres rachetés. Encore un repas, et celui-ci pour matérialiser notre future communion d'être physiquement réunis. Et si Dieu a été fidèle depuis la sortie d'Égypte, si ce symbole de l'agneau pascal que les Juifs mangeaient chaque année à la Pâque a été accompli par le sacrifice de Jésus sur la croix, eh ben on peut être d'autant plus certain que notre Dieu accomplira ce qu'il a promis et qu'un jour nous partagerons ce repas ensemble. Alors pour résumer, voici les différents titres. La Sainte Cène est une image que Dieu nous a donnée qui résume beaucoup de choses concernant notre vie avec lui. Qui nous résume le fait que Dieu est fidèle, que le Dieu de l'Ancien Testament est aussi notre Dieu et celui qui a donné des promesses, les accomplit. Que notre Dieu est ce Dieu tout-puissant qui est capable de toutes choses, celui qui a créé l'univers et celui qui était capable de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage malgré l'autorité qui était peut-être l'autorité mondiale à l'époque, le pharaon, une personne puissante. La Sainte Cène nous rappelle que autour de ce repas, nous avons été rachetés tous ensemble pour être fils et filles adoptives de notre Dieu et que nous sommes réunis en partageant ces éléments dans une communion que Dieu a permise et que nous sommes en communion les uns avec les autres et avec Dieu le Père. Ce n'est pas simplement un rappel entre nous et Dieu, mais aussi c'est quelque chose que nous partageons ensemble et qui scelle le fait que nous sommes tous un même corps. Quand on partage le pain, nous souvenons aussi que Jésus est le pain de vie et que nous ne pouvons rien sans Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour pouvoir connaître Dieu et c'est le seul pain qui peut rassasier notre faim de connaître Dieu. Nous nous rappelons en partageant le pain que Dieu a scellé une nouvelle alliance avec nous et que maintenant nous sommes du côté de Dieu et que nous avons Dieu à nos côtés. Et enfin, nous nous rappelons que chaque dimanche, nous continuerons à célébrer cette scène ensemble en préparation d'un jour où on aura ce banquet final avec notre Sauveur. semaine.